Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
Je reçois Dr. Stephen Ellis, député conservateur de Cumberland-Colchester. Dr. Ellis est ministre fantôme de la Santé pour le Parti conservateur. Il a complété ses études médicales à l'Université Dalhousie. Il s'est par la suite joint au programme de formation des médecins militaires des Forces armées canadiennes. En 1999, Dr. Ellis retourne à Truro, en Nouvelle-Écosse, où il entame une carrière de 23 ans en tant que médecin de famille. Au cours de l'entrevue, nous discutons des origines de Dr. Ellis, de sa carrière, ses aspirations et ses projets futurs. Je vous invite donc à la rencontre de ce médecin, politicien, qui pourrait devenir, au cours des prochains mois, le ministre fédéral de la Santé. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teach, Eurofin Environex et Go Mouton. Dr. Ellis, bonjour.
Bonjour, comment ça va ce matin?
Ça va bien, merci. Merci, vous aussi?
Ah, très bien. Ici à Truro, Nouvelle-Écosse, il y a un peu de nuages, mais j'espère cet après-midi, il y a beaucoup de soleil.
Excellent. Bien, c'est un peu la même chose ici. Là. Moi, je suis dans le coin de Thetford Mines, là, dans le comté d'un de vos collègues, Luc Berthold, puis un peu de nuages aussi. Donc, on attend le soleil. Alors, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du balado « La santé au-delà des mots », donc qui parle de santé, mais sous plusieurs aspects. Votre carrière est intéressante parce que vous êtes à la fois médecin et politicien. Donc, d'abord, vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick, mais votre vie se passe plus en Nouvelle-Écosse. C'est l'amour qui vous a amené en Nouvelle-Écosse.
Non, et quand j'étais jeune, comme tu as dit, je viens de Nouveau-Brunswick et j'ai eu l'idée que quand j'ai fini l'école secondaire, que c'était nécessaire de voyager à Nouvelle-Écosse à l'Université Dalhousie, de prendre mes études là, parce qu'il y avait une école médicale là, et dans mon tête, j'ai eu l'idée que c'était plus facile d'obtenir une place à l'école médicale dans une université que j'ai attendu, c'est le bon mot, que j'ai pris mes études là, et j'ai pensé que c'était plus facile de gagner une place à l'école médicale dans la même université.
D'accord.
Puis, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était, c'était mon idée.
Avez-vous toujours voulu être médecin? Ça venait de où, ce désir?
En ce moment, j'ai 55 ans et quand j'étais jeune, j'ai fait des bonnes études, des bonnes notes à l'école. Et tous mes professeurs m'ont dit que tu peux être un avocat ou un médecin.
D'accord.
Et dans ma famille, il n'y avait personne qui était un médecin. Mon père, il n'a pas fini l'école secondaire. Ma mère a fini l'école secondaire, mais j'ai pensé que c'était une bonne idée. J'étais un jeune d'une qu'est-ce que c'est ça en français, une parc mobile. C'est une bonne phrase avec des maisons.
Des maisons mobiles, tout à fait.
Ouais, Oui, et ma mère, elle a 90 ans en ce moment et elle habite en même place.
Encore dans un, ce que nous au Québec, on appelle ça un parc de maisons mobiles. Donc, vos origines étaient assez modestes. Donc,
Oui, mais quand une personne habite là, dans cette situation, ce n'est pas toujours une idée que c'est différent
OK.
que les autres. On a eu toujours la nourriture, une place à vivre et des autos, et on a joué au hockey, et mon frère et moi, et toutes les choses comme ça. On a fait de baseball aussi. Et toutes les choses que les autres personnes qui habitent dans une maison, ils font la même chose.
OK, tout à fait, tout à fait. Dites-moi, actuellement, donc, vos fonctions de député font que vous avez complètement quitté la pratique médicale?
Ça me fait un peu. Ce n'est pas un problème pour moi, mais les recommandations ici à Nouvelle-Écosse, c'est de pratiquer 920 heures chaque année. Et il y a une question là de demander est-ce que tu as pratiqué les bonnes heures. Et je ne peux pas vraiment le dire parce que c'est au moyen 17 heures chaque semaine. Et ce n'est pas possible avec cette job ici. Ce n'est pas possible. Et ça me fait un peu triste, mais j'étais médecin jusqu'au 1995. C'était quand j'ai fini mon résidence médicale et c'était une bonne carrière. La force aérienne ici, aussi ici à Truro.
Qu'est-ce qui vous a amené à penser à ce stade de votre vie que vous seriez plus utile en politique qu'en médecine? Parce que donc c'est quand même une profession difficilement remplaçable, un médecin, donc, puis vous abandonnez une carrière, ce qui doit être un deuil aussi, j'imagine, à certains égards. Mais en même
Oui,
temps.
il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je voudrais dire que j'ai une résident dans mon cabinet médical et il a pris mon cabinet. Je pense que ça c'était l'essentiel d'être capable de travailler comme un politicien, premièrement. Mais il y a beaucoup des compétences qui sont les mêmes dans les deux professions. Premièrement, c'est d'être capable de collaborer, de parler avec des patients, des personnes en général, parce que c'est nécessaire de trouver le bon voie qui est bon pour les deux parties, le patient, le médecin ou le politicien ou les personnes qui en représentent. Ça c'est essentiel pour moi. Ou dans un grand étage, c'est essentiel de trouver le bon voie entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ça c'est les choses pour moi qui manquent en ce moment. Ce n'est pas une collaboration, c'est toujours une lutte contre le gouvernement fédéral et les provinces. Et je pense que si on peut trouver une meilleure voie, ce sera meilleur pour le pays et pour les provinces et pour les populations.
Qu'est-ce qui vous a incité à faire le saut en politique, et même avec le Parti conservateur, le contexte global là, en 2021, là, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, OK, c'est maintenant, là. vous aviez quelqu'un pour prendre votre bureau?
C'était seulement l'opportunité. J'ai une voisine ancienne et c'était une petite histoire intéressante. Il a téléphoné à ma maison et en ce moment, nous avons un téléphone, je sais pas, stationnement à la maison et aussi il y a une machine aux réponses.
Un répondeur.
Oui, il a laissé beaucoup de messages et comme j'ai dit, il est un peu ancien et il a des problèmes médicaux. Mais ma femme, elle a trouvé les messages et elle m'a demandé de lui téléphoner. Et après ça, je lui ai téléphoné et il m'a dit, est-ce que tu as l'intérêt d'être un politicien fédéral ou conservateur? Comme j'ai dit, j'ai eu un résident qui a pris mon cabinet médical. J'ai pris des patients sans un médecin avec la coopération du gouvernement provincial. J'ai pris une autre caisse, 450 personnes en anglais, on leur parle comme les orphans.
Mm-hmm. C'est la même chose au Québec, les patients orphelins. Ah,
Ouais, son médecin, et c'était en plus de mon cabinet médical. Et ça c'était avant la pandémie. Durant la pandémie, j'étais le médecin qui était en charge de l'unité de COVID-19. Mm-hmm. Et j'ai fini le petit projet avec la province. C'était une très longue histoire, mais c'était mon idée de recommencer avec la province, d'être le médecin pour les personnes sans médecin.
Okay.
Et après, je pense que c'était une bonne idée d'avoir un médecin avec l'expérience de parler aux patients et de faire un record médical électronique.
Mm-hmm.
et d'avoir presque 1 000 de patients de donner à un nouvel médecin. Et ça serait plus facile de commencer un cabinet médical avec toute l'information là dans le AMR.
Okay.
Est-ce que c'est ça en français? Je ne sais pas.
C'est le dossier médical électronique ou dossier patient électronique.
Oui. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir un médecin avec expérience d'être capable de donner d'un nouveau médecin l'opportunité. Mm-hmm. C'est plus facile. Ça, c'était le plan avant de parler à mon voisin ancien.
Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com. www.medix.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais disons, jusqu'en 2020-2021, vous n'aviez jamais pensé à faire de la politique ou c'était comme un peu dans l'arrière?
Non, c'est presque vrai. J'étais le directeur au médecin ici à Truro, à l'hôpital régional. Ça, c'était pas 5, 6, 8 ans.
Mm-hmm.
Ça, c'était seulement parce que une autre personne il ne veut pas d'être le directeur des médecins.
Exactement.
Mais ce n'était pas une élection avec des choses comme ça. Mais non, c'était aussi simple comme ça.
Okay. Ouais. Dites-moi, avez-vous, une fois qu'on décide, bon, effectivement, peut-être l'appel de votre voisin là, sur le répondeur vous allume la flamme de la politique, mais à partir de ce moment-là, avez-vous pensé faire plus de la politique provinciale? Si votre intérêt, c'est la santé, est-ce qu'on peut avoir plus d'impact au niveau provincial en santé ou les enjeux sont différents un peu?
Oui, oui. Comme tu sais, c'est possible d'avoir un impact provincial, surtout avec la santé, parce que ça c'est comme le système est organisé d'avoir le plus d'impact avec le système de santé provincial. Mais pour moi, c'est essentiel, comme j'ai dit, d'avoir la collaboration avec le gouvernement fédéral et provincial. Et en ce moment, ce n'est pas comme ça. Il y a toujours la lutte contre les provinces et le gouvernement fédéral et entre les provinces aussi. Et le système, je pense que c'est vraiment brisé avec les autres idées dans chaque province et les autres. Ce n'est pas toujours une bonne voie pour chaque province d'avoir une idée comme ceci. Comme Nouvelle-Écosse va à la droite et la Colombie-Britannique va à la gauche. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est essentiel d'avoir la collaboration.
Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que moi, j'ai évidemment l'image du Québec en santé, puis il y a aussi toute la question séparatiste au Québec. On dirait que les Québécois sont toujours plus frileux. Est-ce que les autres provinces canadiennes ont le même réflexe de protéger les enjeux et de dire au fédéral, écoutez, la santé, c'est provincial, pas dans ma cour, c'est pareil chez vous aussi?
Oui, c'est presque la même chose, mais je pense que si c'est une crise à la santé, on doit travailler comme c'est une crise à la santé ici au Canada, et c'est nécessaire d'avoir les réunions plus souvent avec les provinces et le gouvernement fédéral de trouver les stratégies qu'on peut décider dans un groupe qui sont très importants. Par exemple, est-ce qu'il y a 5 choses qui sont très importantes pour toutes les provinces et territoires et pour le gouvernement fédéral? Si on peut trouver un agrément que c'est l'accès une médecin ou une infirmière famille, c'est d'avoir l'accès je sais pas, l'image diagnostique, d'avoir partager le data et des choses comme ça. S'il y a 5 choses qu'on peut avoir un agrément qui sont vraiment importantes, toutes les provinces et territoires et le gouvernement fédéral peuvent travailler dans la même direction sur les 5 stratégies qui sont très importantes pour tout le monde. Et ça c'est une idée. Je pense que c'est un peu différent d'avoir tout le groupe à la même place, de trouver les bonnes solutions.
Mais comme, encore une fois, mon expérience québécoise est le Québec va toujours dire, écoutez, donnez-nous l'argent, on va faire ce qu'on veut avec l'argent, puis on ne veut pas de conditions associées à l'argent. Puis le gouvernement fédéral fait la même chose. Actuellement, Justin Trudeau, avec la transition vers l'énergie verte a mis des conditions, notamment les provinces des prairies trouvent ça très difficile. Le gouvernement Trudeau dit, si vous ne faites pas d'ici 2035, par exemple, vous n'aurez pas l'argent. Donc, le conflit est toujours... C'est difficile. Ouais. Je comprends votre position, mais c'est difficile à... Comment est-ce que vous allez gérer ça comme ministre de la Santé?
Mais pour moi, les conditions, ce n'est pas la même chose de la collaboration.
Okay.
Et pour moi, les conditions, ça veut dire, ici, c'est l'argent et tu, c'est nécessaire de faire ceci ou quelque chose d'autre. Ça, c'est les conditions, mais de collaborer, ça, c'est de trouver une bonne voie. Comme j'ai dit, par exemple, les cinq priorités pour les provinces et le gouvernement fédéral. Et si il y a beaucoup des problèmes qui toutes les provinces ils font la même chose, mais ils ne peuvent pas partager les bonnes idées parce qu'ils sont ils font le travail très fort et c'est seulement pour une province ou un territoire. Et si on peut partager les bonnes idées et donner plus d'argent pour les bonnes idées, je pense que ça, c'est une autre idée. C'est un peu différent pour moi. C'est de collaborer, ce n'est pas les conditions.
Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
Farévelour est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de services à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Farévelour, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.farevelour.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
Avant de poursuivre sur votre rôle au sein du cabinet fantôme de Pierre Poilievre, j'aimerais que vous me parliez. J'ai vu l'initiative, je trouvais ça intéressant, que vous aviez mis sur pied à l'époque, qui s'appelait Walk with a Doc. Donc, DOC, D-O-C et non D-U-C-K. Donc, qu'est-ce que c'est ça, Walk with a Doc?
En anglais, beaucoup de personnes ils pensent que c'est marcher
ou avec un chien. Ou un canard.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est toujours Walk with a Dog.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça, cette...
Et c'est un petit programme. Il a commencé avec un médecin aux États-Unis qui s'est nommé David Sagbeer. Il était un cardiologue. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et j'ai eu l'idée que c'est essentiel d'avoir la population plus engagée avec leur santé. Et c'est une opportunité de marcher avec un médecin local et d'avoir une conversation et de demander les questions et d'avoir les réponses. Ce n'est pas vraiment... avec la santé personnelle, mais c'est plus général, comme qu'est-ce que c'est la définition de hypertension, qu'est-ce que c'est le bon traitement pour le diabète, et des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'était une bonne opportunité. Il y a un nouveau centre ici de récréation avec une place à marcher dans je sais pas là mon français, je m'excuse, dans un hockey rink.
Narena.
Avec, oui, arena avec beaucoup de sièges. C'est essentiel pour les anciens d'avoir une place de s'asseoir. Et avec beaucoup de sièges dans une arena, c'est parfait pour ça. Et je reste là pour une heure et marcher et répondre aux questions. Et c'était un peu plus grand que ça parce qu'on a eu la coopération de la ville de Truro et d'un petit hôtel ici, d'avoir un chef avec les recettes de bonne santé et d'avoir une petite réunion après ça, de manger les bonnes recettes aussi. C'était seulement une fois chaque semaine, mais il y avait des autres groupes qui a fait presque la même chose avec l'hôpital et des autres groupes. Et c'était une bonne chose à commencer. Il y avait au plus haut 80 personnes là et au moins 20 ou 10 ou quelquefois 5 personnes. Mais je pense que c'est une opportunité d'être comme une communauté. Je pense que c'est essentiel et de encourager les patients d'être actifs aussi. Mais c'était un petit programme. Mais c'était aussi essentiel qu'il n'y avait pas une grande groupe de parler ou les règlements, des choses comme ça. C'était seulement moi et une autre personne qui était les deux chefs. Et c'était seulement là de donner une petite discours, premièrement, et après ça, de marcher pour une heure.
Est-ce que ça existe encore maintenant?
Ou... Oui, il y a une groupe qui l'a pris, oui, c'est ça.
J'aimerais que vous me parliez, parce que vous avez plusieurs carrières, de votre carrière dans les Forces armées canadiennes. Donc, en plus de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a amené dans les Forces armées?
Oui. C'était, pour moi, comme j'ai dit, c'était presque essentiel de trouver un programme de payer pour mon éducation parce que ça coûte trop cher d'être un médecin et il y a un programme à la force canadienne d'être un médecin, c'est l'entraînement d'une qu'est-ce que c'est ça, d'un officer médical. C'est un programme c'est essentiel de finir la première année en école médicale avant de participer dans ce programme-là. Et je l'ai fait. Après ça, il m'a donné l'argent pour 5 ans d'entraînement et après ça, c'était nécessaire de donner 4 ans de repayer le dette.
Et qu'avez-vous fait pendant ces 4 années-là au sein des forces? Ou...
Oui, j'étais, ma femme et moi, cette année, nous sommes mariés pour 33 ans et nous avons 3 enfants. Ils sont les adultes en ce moment. Mais on a été à Shearwater, en Nouvelle-Écosse, pour 2 ans et après ça, à Comox, en Colombie-Britannique pour 2 ans et tous les environs entre les deux. Je pense que c'est la même chose en ce moment. Il n'y a pas assez de médecins aux forces aériennes ou les forces canadiennes. Et c'est essentiel de donner une petite vacance. Et on va voyager à une autre base de donner une petite vacance. Et aussi, j'ai fait un rapport d'un accident avec le Griffin Helicopter. C'était le premier accident avec ça. C'est une part de J'étais la responsabilité. J'étais une surgeon mm-hmm. de vol en anglais. C'est un flight surgeon. Ce n'est pas nécessaire de okay. faire la chirurgie en vol, mais c'est une spécialité de l'aviation. C'est une des responsabilités, c'est de recherche les accidents, des choses comme ça. Et aussi, j'ai eu une petite vacance à Koweït pour 4 mois. C'était la dernière chose que les inspecteurs des armes à feu étaient éjectés de l'Irak. Okay. On était là. Il y avait 100 personnes canadiennes avec les australiennes aussi. Et on a fait de donner l'essence à les okay. avions. C'était ça. Okay. C'est en vol, de donner l'essence en vol. Et j'étais le médecin là. Et aussi, c'était le froid quand un Canadien il a dit qu'il ne veut pas qu'est-ce que c'est ça en français le vaccin okay. anthrax. C'est une autre grande histoire. Il y avait une chose à Winnipeg après ça. C'est une très très longue histoire, mais comme tu peux entendre, j'ai aimé le carrière à la force aérienne, mais c'est toujours difficile pour les familles. C'est plus difficile pour les familles dans les forces canadiennes si la personne est dans une petite vacance, comme mm-hmm. j'ai dit. C'est toujours très, très difficile pour les familles d'être toute seule. Et ma femme, sa famille était en Nouvelle-Écosse et elle était à Colombie-Britannique en ce moment-là avec deux petits enfants. C'était difficile. Ouais.
Parlez-moi un peu de votre circonscription, Cumberland, Colchester, donc une grande circonscription quand même au niveau géographique. La population, je pense, autour de 80 000 personnes, mais les revenus, l'activité économique...
Oui, c'est presque le même les circonscriptions rurales mm-hmm. de Québec. Je pense que Richard Lehoux, il a voyagé ici cet été passé et il m'a dit que c'est presque le même de son circonscription. Il y a la pêche, l'agriculture avec les vaches laitières, un peu des œufs. Et aussi le sylviculture. L'économie mm-hmm. rurale au Canada, je pense. Il y a quelques usines ici aussi à Truro. Truro, c'est la plus grande ville dans ma circonscription. Il y a presque 18 000 mm-hmm. de personnes ici. Il y a une usine fameuse, Stanfields. Ils sont fameux pour les sous-vêtements, okay. premièrement. oui, c'est ça. Il y a une usine pour l'agropur aussi. C'est agropur, oui. Avec j'ai trouvé le mot en français, les friandises glacées. Okay. Oui.
Oui, c'est bon, c'est bon. Expression.
Ah oui. Et aussi, il y a une usine, une autre ville, Amherst. Ils font je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français. Il y a des choses en plastique pour mettre les choses comme les patates frites,
des
choses
de comme ça.
Ou... Okay. Oui, oui, c'est une bague. En plastique. Mais c'est des choses comme ça. Ils ne sont pas très grandes. C'est 200 ou 300 personnes là, à l'usine. Mais c'est très rural et ça fait un grand problème en ce moment. Le coût de la vie pour les personnes qui habitent rural, c'est comme tout le monde sache, c'est essentiel de conduire, d'avoir une réunion avec un médecin, de trouver un supermarché, d'avoir une réunion avec les enfants, des choses comme ça. Ça coûte trop cher. Et aussi, on a vu qu'il y a des personnes qui a habité à l'Ontario. Ils ont déménagé ici, à Nouvelle-Écosse, et le coût le prix des maisons, c'est plus haut que c'était. Ça fait un petit problème, et aussi le coût d'avoir un appartement, ça c'est plus haut que c'était. Mais est-ce que c'est un problème ou c'est une bonne chose d'avoir plus de personnes ici? Je pense que c'est essentiel d'avoir plus de personnes, mais comme j'ai dit, c'est le coût de la vie, c'est plus difficile pour les personnes ici qui habitent très rural. C'est dommage, mais beaucoup de personnes utilisent le fourneau avec d'huile ici. Il n'y a pas de gaz ici. Les windmills ne sont pas plus tôt. Et il y avait un petit projet ici qui est très unique avec les... rencontre le bon mot, je dois le savoir, mais c'est avec les marées.
OK.
D'avoir l'énergie avec les marées, mais c'est complète parce que le département des pêches des océans ne veut pas donner le bon instruction de continuer ce projet-là. Et pour moi, comme j'ai dit, c'est un projet très unique ici parce qu'on a les marées les plus grandes au monde ici dans mon circonscription. Mais ça, c'est les problèmes ici dans ma circonscription. C'est un très joli endroit à habiter pour moi. Mais pour les personnes qui entendent cette émission, c'est presque le même.
C'est bon. Dites-moi.
Mais on parle anglais.
Effectivement, je regardais, il y a tellement peu de personnes qui parlent français que vous avez, je pense, le nombre exact de personnes qui
parlent. C'est 1% des personnes ici dans mon circonscription. Mais j'ai eu l'opportunité d'apprendre le français quand j'étais jeune au Nouveau-Brunswick. Et aussi, je l'ai pris un an à l'université et aussi, pour moi, je prends des leçons en ce moment deux fois chaque semaine. Et je pense que c'est essentiel si on veut une politicien fédéral au Canada.
Tout à fait. Mais écoutez, votre français est excellent, je dois dire. Donc, aucune gêne. Dites-moi, auriez-vous pu envisager vous présenter en politique, mais ailleurs que dans votre région, là, donc... Si on vous avait offert une circonscription au Nouveau-Brunswick ou à l'Île-du-Prince-Édouard, est-ce que vous l'auriez envisagé ou il fallait servir les gens de votre communauté?
Pour moi, c'est le chose essentielle. Il y a beaucoup de rôles pour une politicien fédéral, premièrement, c'est d'écouter les personnes qui sont les résidents de Cumberland Colchester. Ils ont beaucoup de problèmes et aussi, j'ai mes employés ici sont excellents. Ils peuvent marcher le système fédéral de donner le bon avis à les personnes ici. Ça c'est premièrement. Ils sont le chef de moi. Si on a une élection, c'est leur voix qu'on doit suivre. Et c'est premièrement notre responsabilité de donner le bon avis. Si c'est une un problème municipal ou provincial, on va donner le bon direction d'aller à notre bureau. Ça c'est premièrement, mais l'autre chose, c'est de trouver les bonnes stratégies, les bonnes politiques pour le Parti conservateur au Canada avec la santé. Ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est trouver les bonnes idées pour la plateforme et d'avoir les idées. Comme j'ai dit, une idée, c'est de collaborer mieux avec les provinces, des choses comme ça, et comment on peut avoir une licence pour les immigrants qui sont les médecins étrangers ici au Canada, parce que tout le monde pense qu'on a besoin de plus de médecins. Et ça, c'est comme les choses comme ça. Ça l'autre chose. Et l'autre chose, c'est de pour moi, je voudrais rencontrer tous les ministres provinciaux de la santé aussi. Pour moi, ça, c'est essentiel d'avoir une relation avec les ministres provinciaux. Et en ce moment, j'ai rencontré, je pense que c'est 5 ou 6 ministres provinciaux. Demain, j'ai une réunion avec le ministre de l'Île-du-Prince-Édouard et j'espère, au 1er septembre, j'aurai une réunion avec le ministre au Québec aussi.
Vous parlez des contacts avec les ministres de la Santé des autres provinces. Ça m'amène à vous demander, Claude Castonguay, qui est bien connu au Québec, le père de la régie de l'assurance maladie, un grand politicien québécois qui a fait beaucoup de choses là, dans la Révolution tranquille là, des années 60-70 au Québec. Dans un de ses livres que j'ai lu, qui s'appelle, je crois, « La fin des vaches sacrées », il mentionnait que, selon lui, les médecins n'étaient pas nécessairement des bons administrateurs et que le fait d'être médecin, ça ne faisait pas nécessairement de nous un bon candidat pour être ministre de la Santé. Et l'exemple qu'il utilise dans son livre, c'est qu'il, en parlant d'Hydro-Québec, il dit « On n'aurait jamais l'idée de mettre un électricien président d'Hydro-Québec. » Donc, j'imagine que vous n'avez pas cette vision-là puisque vous êtes médecin et vous vous lancez en politique. Mais est-ce que ce sont des choses que vous avez entendues? Ou, parce que j'avais même déjà entendu, j'ai fait une entrevue récemment avec une médecin de Québec, Dr. Élise Berger-Pelletier, puis elle mentionnait qu'elle-même, lorsqu'elle est médecin et elle fait de l'administration, et lorsqu'elle a comme un petit complexe d'infériorité par rapport à des administrateurs du réseau, à des gens de carrière. Je ne sais pas, vous, là, vous arrivez, comment vous vous sentez là-dedans? Puis vous avez votre expertise de médecin, mais comment vous vous sentez? C'est une longue question, là, mais la table...
Non, ça marche. Je pense que c'est nécessaire d'utiliser les compétences qu'on a trouvé comme un médecin. C'est comme j'ai dit quelquefois, c'est de collaborer, c'est essentiel. Premièrement, c'est d'avoir une conversation. C'est essentiel d'être ouverte aux autres idées. Je pense que ça, c'est les compétences d'un médecin qui sont qui on peut utiliser comme un politicien d'être ministre de la Santé. Est-ce que c'est essentiel? Non, ce n'est pas vraiment essentiel. Il y a beaucoup d'autres personnes. Mais aussi, je pense que c'est essentiel d'avoir une personne là qui peut trouver que en ce moment, c'est une crise avec la santé au Canada et aux provinces et d'avoir, comme médecin, c'est toujours essentiel d'être capable d'avoir une présence calme dans une crise. Et je pense que c'est une autre chose que je peux donner à la santé ici au Canada. Mais aussi, Ce n'est pas un bon exemple, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de médecins qui sont le chef des hôpitaux. Ils fonctionnent très bien avec le service aux patients et des choses comme ça. Comme j'ai dit, ce n'est pas un bon exemple, mais je pense que c'est possible. C'est essentiel de c'est une chose que j'ai trouvée très difficile, premièrement, de élever mes pensées au mm-hmm. niveau fédéral. Et je pense que c'est essentiel d'être capable d'être un ministre. Ce n'est pas seulement le cabinet comme un mm-hmm. ministre de santé, mais c'est essentiel pour tous les autres ministres aussi. Je pense que ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais j'ai eu des autres professions en ce moment. J'étais en la force aérienne, comme on a dit. J'étais un médecin pour beaucoup d'années. Et pour moi, c'est une autre profession de trouver une bonne voie, d'être capable d'avoir les bonnes conversations avec mes collègues et de trouver les bonnes stratégies pour le Canada, premièrement, en ce moment, pour le Parti conservateur.
Pour nous.
C'était une...
C'est parfait. Non, c'est... parce que ça m'amenait peut-être à vous demander, avant de passer, comment est-ce qu'on peut se faire une idée complète de la situation de la santé pour le Canada au complet? Parce que les enjeux dans une ville comme Truro par rapport au centre-ville de Vancouver, ces deux mondes, c'est comme si c'était presque deux pays différents. Les enjeux sont complètement différents. J'imagine que ça prend un certain temps à comprendre les enjeux, puis bien défendre les positions, puis comme vous parliez de collaboration, tout ça, mais...
Mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a des idées, des politiques qui sont essentielles, le même pour chaque province. Et on doit trouver les stratégies les plus importantes dans cette crise qui on peut trouver une solution. Et pour moi, ça, c'est la première chose essentielle. Je pense qu'il y a cinq choses qui sont essentielles. Tout le monde parle avec le data. On doit avoir une stratégie avec le data, avec la confiance, avec comment on peut partager le data et les choses comme ça. C'est un petit exemple, ce n'est pas possible d'avoir les medical trials en Canada avec les médicaments ou des choses comme ça, mais c'est nécessaire d'avoir les règlements qui sont les mêmes partout au Canada. Parce qu'on a seulement une population qui est très petite, mais nous avons les règlements qui sont les mêmes au Canada, on peut faire les essais cliniques qui sont meilleurs, qui sont plus grands, qui vont donner les bonnes réponses et qui vont avancer la santé au Canada. Ça, c'est une autre petite chose qu'on peut collaborer, d'avoir les mêmes règlements pour les choses comme ça. Et ça, c'est meilleur pour tout le Canada. Je sais que je l'ai dit la même chose presque chaque fois avec la collaboration, mais je pense que ça, c'est le pouvoir d'être Canadien, d'avoir une opportunité de collaborer, de trouver une solution pour le service de santé ici. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir l'accès d'un médecin famille ou d'une infirmière famille, des choses comme ça. Ça, c'est la porte de le système. Ce moment, c'est le seul porte d'être capable d'avoir accès à un spécialiste ou des laboratoires, des images diagnostiques et des choses comme ça. Ça, c'est essentiel, premièrement, et je pense que toutes les provinces et territoires peuvent voyez que c'est une chose très importante, par exemple.
Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique préopératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@commercialremparneuro.ca. C'est à info@commercialremparneuro.ca. Dites-moi, pour nos auditeurs qui sont peut-être moins proches de la chose politique, là, vous êtes membre du cabinet fantôme. C'est quoi un cabinet fantôme? Et quelles sont vos tâches dans ce cabinet-là? Est-ce que vous êtes toujours en train de surveiller ce que le ministre de la Santé dit à tous les jours pour le critiquer? Est-ce qu'on est plus à vous parler de collaboration comme ministre responsable de la Santé dans le cabinet fantôme? On est dans la collaboration ou dans la critique, la surveillance? Ce serait quoi le meilleur terme pour définir votre tâche?
Oui. Non, je pense que, comme j'ai dit, c'est essentiel de parler avec le ministre de la Santé. Et j'ai eu beaucoup de réunions avec Jean-Luc Duclos. C'est aussi essentiel de s'opposer le Parti libéral en ce moment, d'avoir une voix qui est différente que les idées du gouvernement. Mais aussi, pour moi, c'est aussi essentiel d'être capable de dire si c'est une bonne idée, on doit le suivre. Et aussi d'avoir les questions au ministre comme il y a un grand problème en ce moment avec les produits naturels de la santé. Ils ont changé les règlements et ça va faire les difficultés pour les entreprises petites et moyennes ici au Canada qui produisent les produits naturels. Et ça va enlever les coûts de produits, les produits, et ça va créer un problème que c'est une possibilité que les entreprises au Canada vont fermer et le commerce sera aux États-Unis ou des choses comme ça. J'ai demandé les questions au ministre et malheureusement, il n'y avait pas de réponse, mais je demandais des questions. Et aussi d'avoir une opportunité de demander les questions au comité de la santé. C'est une autre opportunité d'avoir des questions pour le ministre. Et aussi, mais comme j'ai dit, d'avoir les idées pour la plateforme de la stratégie à l'avenir pour le Parti conservateur, la prochaine élection aussi. Je pense que c'est une essentielle partie de mon d'être ministre fantôme.
Est-ce que vous pourriez imaginer au niveau fédéral à long terme qu'il y ait presque un même ministère pour santé et environnement, tellement les enjeux de l'environnement finalement sont des enjeux de santé, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les contaminants. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible d'avoir un seul ministère qui chapeaute les deux ou c'est trop gros là?
Moi, je pense en ce moment que c'est trop gros parce que c'est aussi essentiel pour le ministre de la Santé d'être le chef de la Santé Canada, de l'agence publique de la santé, l'inspection de la nourriture canadienne aussi. Ça, c'est un très grand département avec, je pense que c'est presque 12 000 personnes. Mais pour moi, je pense que c'est une autre idée d'avoir une ministre de la change de la ministre de la santé. Parce que, comme j'ai dit, si c'est une crise, on doit répondre comme une crise. Et je voudrais dire que c'est, si une personne est le chef de 12 000 personnes, avec, je sais, il y a beaucoup de bureaucrates là qui sont des chefs aussi, mais c'est vraiment difficile d'être le chef d'une crise si on a des autres priorités de les trois départements au-dessus de le ministre de la Santé. Mais je voudrais dire aussi que c'est, ça sera un gouvernement qu'est-ce que c'est ça en français? Audacieux, oui, qui voudrait comprendre que de prévenir la maladie, c'est essentiel en ce moment au Canada, mais ça prendra 10 ou 20 ans ou 30 ans d'avoir les résultats avec cette idée. Mais si ce n'est pas abordable en ce moment de continuer dans cette voie avec la santé, ça coûte trop cher pour les provinces et aussi pour le gouvernement fédéral. Et si on peut trouver une bonne voie de prévenir les maladies, ça sera mieux pour les Canadiens. Mais comme je dis, ça sera un gouvernement audacieux qui voulait faire.
Docteur Ellis, avez-vous une devise, un mantra ou une phrase que vous dites là, à laquelle vous êtes associé? Là, les gens disent « Ah, Docteur Ellis dirait telle chose » ou...
Pour moi, c'est la chose que j'ai faite pour toute ma vie. Une petite histoire, quand j'ai marché à mon interview à l'école médicale, ma femme était là, mais elle était ma chum, mon petit oiseau à ce moment. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne peux pas gagner l'entrée à l'école médicale? Et je dis, les personnes n'entrent pas à l'école médicale, s'il veut. J'étais très naïf, c'est ça, mais c'est possible que c'est une bonne chose, qu'on doit toujours marcher en avant avec les bonnes idées. Et si on fait une erreur, on peut dire j'ai fait une erreur et je vais le corriger et trouver une autre voie.
Pour moi, c'est bon, ça rejoint dans un autre environnement complètement. Ferruccio Lamborghini, qui est le concepteur des voitures exotiques que l'on connaît, disait on va essayer, mais au moins si on échoue ou si on rate, on va rater en essayant, plutôt que de jamais essayer. Donc, ça rejoint un peu. Dites-moi, quel est le... Si ça se raconte à cause de la confidentialité, peut-être le plus beau souvenir de votre carrière médicale, avez-vous quelque chose en tête ou des fois on ne peut pas le raconter là, parce que c'est un patient ou...
Pour moi, c'était toujours avec l'individuel. Si si une personne avait par exemple, les problèmes avec la santé mentale, de trouver de choisir de attendre une psychologiste ou des choses comme ça, de prendre des médicaments et de changer leur vie. Je pense que c'est pour un médecin, c'est plus facile de donner les médicaments, mais d'avoir un patient qui veut faire le travail pour changer leur vie et d'avoir une petite partie dans cette change. Pour moi, c'est toujours une bonne chose. Mais aussi, c'est en ce moment, j'ai ma femme et moi, comme j'ai dit, c'est presque 33 ans d'être marié. Pour moi, c'est une très bonne chose et on a deux petites filles qui habitent ici à Truro, des choses comme ça. La famille, c'est très important. C'est le, c'est le mm-hmm. nucleus de la vie pour moi. Et ça c'est aussi un bon temps pour moi.
En vous lançant en politique, est-ce que vous améliorez votre vie de famille ou vous la détériorez?
Non, c'est... Oui, c'est toujours très difficile parce que ma femme, elle est pharmacienne, elle travaille beaucoup aussi, mais nos enfants, ils sont, comme j'ai dit, les adultes, ils ont presque 29 ans et 26 ans et 21 ans, et... Mais pour les politiciens fédéraux, comme tu sais, c'est difficile parce que nous sommes à Ottawa beaucoup de fois. C'est différent que des politiciens provinciaux. Mais j'ai eu le voyage, c'est simple, c'est seulement 40 minutes à l'aéroport à Halifax et c'est 12 heures à Ottawa. Et ce n'est pas nécessaire pour moi de conduire l'avion. C'est facile. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont le voyage plus difficile d'aller à Ottawa.
Auriez-vous envisagé faire une carrière en politique il y a 10 ans ou 15 ans quand les enfants étaient... Plus jeune, ça aurait été trop de sacrifices.
Ah oui, c'est très difficile. Je vois ma collègue Layla Goodridge. Elle vient de Fort McMurray et elle a deux petits enfants. Mm-hmm. Et c'est très difficile. Le voyage, c'est très difficile. D'avoir deux petits enfants, c'est très difficile. Et elle est une collègue excellente, mais pour moi, je ne sais pas comment on peut le faire. C'est plus facile pour les plus personnes âgées, qui sont plus âgées comme moi.
Vous parliez de prévention tout à l'heure pour la santé à long terme, mais pour vous, là, comme médecin, puis maintenant comme politicien, peut-être futur ministre de la Santé, votre définition de la santé, c'est quoi?
La définition de la santé, c'est une harmonie complètement avec la santé physique et la santé médicale. Si, on peut le dire si c'est ton passion avec la santé religieuse, la santé mentale, des choses comme ça. Mais c'est l'harmonie avec toutes les choses, d'avoir le temps de faire un peu de récréation, de travailler fort aussi, d'avoir une maison, un appartement, d'avoir le bon nourriture. Comme tu as dit, c'est essentiel. C'est la collaboration. C'est le même mot encore avec l'environnement. L'environnement en général et l'environnement personnel, d'avoir les choses qu'on peut avoir une vie où on travaille très fort. Je pense que c'est essentiel d'avoir qu'est-ce que c'est le mot en français? Je m'excuse, mais pour moi, c'est un mot, un but, un objectif. De la vie, je pense que c'est essentiel. Et après ça, les autres choses aussi sont essentielles. C'est difficile d'avoir une bonne vie en ce moment à cause de le coût de la vie pour moi.
Je termine en général mes entrevues avec une section qu'on appelle « baguette magique ». Donc, Magic Wand, c'est bien ça? Donc, si vous pouviez, par magie, changer une seule chose dans le système de santé, on va dire fédéral, donc, puisque c'est la discussion d'aujourd'hui, donc, ce serait quoi?
Si c'est le système en général, je voudrais que les patients puissent avoir une réunion à la même jour avec un médecin famille ou une personne comme ça. Et après ça, c'est d'avoir l'opportunité pour les médecins famille de trouver une réunion avec un spécialiste très, très vite. Parce que je pense qu'ici au Canada, on fait des très bons médecins famille, mais si les médecins famille sont... au fin de leur idée avec les problèmes de la patient, c'est essentiel d'avoir une réunion avec un spécialiste très vite. Et je pense qu'en ce moment, ça n'existe pas. Mais si on peut trouver une voie d'avoir les patients et aussi les médecins familles d'avoir les réunions plus vite, ça sera
améliorer l'accès
plus rapidement,
aux médecins spécialistes.
Oui.
Et si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit dead or alive, vivante ou décédée, donc pour prendre un café ou peut-être prendre une marche, là, donc...
Pour moi, le plus facile personne, s'il est une personne, okay. C'est Jésus. Il a toutes les réponses, il a toutes les idées. C'est un peu comme le magique, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais ça sera une bonne chose. Mais en toute sérieusement, peut-être Tommy Douglas. Il était le père de la mm-hmm. santé ici au Canada, le système de la santé. Je voudrais dire quelles sont nos erreurs. Qu'est-ce que c'est le vision de Tommy Douglas pour le système de la santé socialisé ici au Canada? Et quelles sont nos erreurs dans les années après l'idée était réalisée? Et pour moi, ce sera une conversation intéressante.
Avez-vous une cause qui vous tient à cœur ou une fondation que vous supportez?
J'ai eu un projet au Guatemala pour 15 ans, je pense. C'était interrompu par la pandémie. Mais c'était un petit projet avec les personnes très très pauvres là, et ils ont le feu ouvert et ça fait des problèmes avec des enfants et premièrement avec mm-hmm. les femmes. En espagnol c'est humo, avec le fumée là, et ça fait des problèmes. Il y a les maisons sont très très petites et le plafond, c'est très bas. Et il y a le terrain avec le plancher. Et il y a un feu ouvert là. Et on a un petit projet qui on va trouver l'argent ici au Canada d'avoir un homme là, à Guatemala, qui construit les je sais pas le mot en français, en espagnol c'est las estufas. Je sais pas s'il y a un mot exact en français. Le four, okay. Ce n'est pas vraiment un four, c'est un, j'ai oublié le mot, a metal top,
okay.
Pour cuisiner. Le haut métal pour cuisiner, et il y a un tuyau avec un ojo à la... Non, ce n'est pas un ojo. Oui, c'est un ojo, c'est un mot français.
Ojo, non, c'est ça, mais pas la cheminée. Là. Okay.
Oui, la cheminée, oui. Et on peut trouver, on peut construire 300 fours par semaine là, et ça c'est de changer la santé d'un grand groupe de personnes très très vite. Ça c'est un projet, je suis fier d'être une partie de ce
projet. Vous êtes encore impliqué dans
ce
projet-là dans le moment donc.
Mais oui, il y a des problèmes avec la sécurité à Guatemala après la pandémie. Les personnes là sont très pauvres et c'est toujours un peu dangereux, mais je pense que c'est un peu plus dangereux après la pandémie. On était là depuis 3 ans en ce moment.
On approche de la fin. Dites-moi, est-ce qu'on va se rendre au 20 octobre 2025 pour les prochaines élections fédérales?
Oui, mais il y a un agrément avec le NPD pour jusqu'au le 224. Je pense que, pour moi, je pense qu'il y a une élection au printemps de l'année prochaine, parce que Justin a changé le cabinet et je pense qu'il veut donner un peu de temps d'avoir l'expérience dans leur portfolio. Et je pense qu'après ça, il y aura une élection. Une personne m'a dit, je pense que Justin va le chef des libéraux. Et je pense que c'est un peu différent, mais je pense que il n'aime pas vraiment Pierre Poilievre. il veut lutter avec Pierre dans l'élection.
L'élection prochaine. OK, donc vous pensez que si on avait un autre chef au Parti conservateur, Trudeau aurait quitté? Peut-être. Ah oui?
Ah oui, oui. Okay. Oui, peut-être, je pense que c'est ça, mais je pense que, je ne sais pas, je n'ai parlé pas du tout au premier ministre, mais je pense que toutes les choses qu'il dit, qu'il va me donner l'idée qu'il n'aime pas vraiment Pierre Poilievre et il veut être lutté avec lui dans la prochaine
élection.
C'est sûr
qu'un personnage comme Pierre Poilievre, je pense que c'est quelqu'un, on peut dire, on l'aime ou on ne l'aime pas, là, donc... Il n'y a pas de zone grise ou moins là, pour l'instant, donc...
Ouais. Mais si on peut voir les petites nouveaux émissions que Pierre a faites, oui, ça c'est essentiel de trouver le vrai personne là, qu'il a une famille, il a été adopté par deux professeurs au Alberta, et il a une femme qui vient de Venezuela. Et il a malheureusement une petite fille qui a des problèmes. Et ça, c'est une personne qui est une Canadienne ordinaire qui sache des problèmes aux Canadiens avec le coût de la vie et les problèmes avec la famille et de l'immigration et d'être adopté, de trouver une éducation et d'être bilingue. Je pense qu'il fait toutes les choses pour moi qui est essentiel de comprendre les problèmes avec tous les Canadiens ici. Et je suis fier d'être une députée sur le leadership de Pierre.
Avez-vous une dernière pensée avant de conclure?
Mais pour moi, c'est essentiel, comme j'ai dit beaucoup de fois, d'avoir la collaboration. Et je pense que si on peut le faire, le Canada sera plus fort et avec plus de pouvoir au monde. Je pense que ça, c'est nécessaire d'avoir comme le Force canadienne plus fort et d'avoir plus d'argent dans la poche des Canadiens, d'être capable de payer les choses qui sont essentielles de vivre ici au Canada.
Ça conclut bien. Dr. Ellis, merci.
Et c'était un bon plaisir. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup. Merci.
Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr. Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.